Chapitre 13. L'unique tente mide de place que Reggie avait dressée en guise de camp 6 demeura invisible pendant l'ascension. Elle se trouvait beaucoup plus loin sur la face nord que dans mon souvenir, mais Reggie nous y conduisit tout droit. Nous y avions laissé quelques bouteilles d'oxygène, deux sacs de couchage et une petite réserve de nourriture avant de nous séparer pour entamer la recherche des corps sur la face nord ce lundi qui semblait déjà si loin. Nous apportions maintenant de l'eau, du thé, du café et d'autres liquides tièdes après avoir fait fondre de la neige au camp 5 avant de quitter le col nord. Ça m'a l'air très confortable, dit le diacre en contemplant la tente minuscule plantée à un angle de 40 degrés sur un bloc rocheux et coincée entre deux autres. La plus grande partie de cette section d'escalade sur l'arête nord, à peu de distance sous la bande jaune, s'était faite à travers des goulottes et des dédales de gros rochers. Mais 4 jours plus tôt, une éternité, Reggie avait décidé d'installer notre camp 6 à plus d'une centaine de mètres de la ligne de crête. Il n'y avait pas non plus de zone plate sur l'arête, quand bien même les vents violents auraient permis de l'envisager. La lumière indirecte d'avant l'aube éclairait lentement le ciel derrière l'arête nord-est, qui n'était plus loin au-dessus de nous, et le soleil ne tarderait pas à frapper le sommet de l'Everest à environ 1,5 km à l'ouest et quelques 600 mètres au-dessus de nous. Nous posâmes nos sacs à dos pour la première fois depuis le départ du camp 5, et nous laissâmes tomber dessus en prenant garde à ne pas dégringoler sur les dalles en pente de la face. Nous étions tous très fatigués, et je sentais se dissiper l'effet de la coléine et de la benzédrine. La toux était revenue de plus belle. Seul J.C. portait ses jumelles au-dessus de ses nombreuses couches de vêtements, et il me les passa pour que je surveille à mon tour les hommes qui voulaient nous tuer. J'examinais le col nord et l'arête nord, et jusqu'au léger éclat de notre tente verte écroulée au camp 5, mais ne vis aucune forme bouger.
Ils ont peut-être abandonné. Ils sont rentrés chez eux.
Dis-je entre deux accès de toux à me tordre les tripes. Reggie secoua la tête et pointa le doigt, le bras presque tendu vers le bas.
Ils sont en train de quitter le camp 4, Jake. Je vois 5 hommes.
Moi aussi, confirma le diacre. L'un d'eux semble porter un sac et mon fusil à l'épaule. Il y a une chance que ce soit Seagull. À moins qu'il n'ait amené un tireur plus expérimenté avec lui. Ce qui est une possibilité bien réelle.
Merde,
murmura J.C.
Je suis parfaitement d'accord, dis-je.
Je m'aperçus que le diacre n'orientait plus ses jumelles vers le bas, mais examinait quelque chose par-delà le sommet nord, le plus haut et l'authentique sommet de l'Everest.
Vous cherchez cette traversée mythique ?
Demandai-je, regrettant aussitôt mon ton sarcastique.
Oui.
Canowings m'a dit qu'il y avait un très méchant ressaut sur la ligne de crête entre les deux sommets. Il le voit d'aussi loin que le Tianboche, dans la vallée de Kumbu, où il vit. Un sacré obstacle. Comme le deuxième ressaut, un peu plus haut sur l'arête nord-est, de ce côté-ci. Qu'on dit infranchissable. D'après Ken, ce ressaut entre les deux sommets mesure environ 15 mètres. Ce qui serait impossible à gravir à cette altitude, fit remarquer J.C.
Peut-être.
Mais nous n'aurons pas à le gravir. Si nous réussissons à atteindre ce premier sommet, nous entamerons la descente. Il nous suffira de franchir ce foutu ressaut en rappel, puis de continuer par le côté sud.
Personne ne dit rien, mais je soupçonnais les autres de penser la même chose que moi. Je n'avais absolument pas l'énergie de parcourir 1,5 km sur l'arête nord-est et d'escalader 2 grands ressauts, dont le deuxième jugé infranchissable au-dessus de nous et à droite. encore moins de gravir la pyramide sommitale et le sommet lui-même. C'était inenvisageable.
Devrons-nous bientôt craindre que Siegel, ou celui qui détient votre carabine, nous tire dessus ?
demandai-je, ne serait-ce que pour changer de sujet.
Je crois qu'ils feront très attention au lieu et au moment où ils feront feu.
C'est très rassurant.
Et pourquoi ces précautions ? Parce qu'ils cherchent la même chose que nous, répondit le diacre.
Échapper à des nazis fous.
Le diacre secoua la tête.
Ce que détenaient Percy et Meyer. L'année dernière, Bruno Siegel a commis l'erreur de tirer sur Percival. Ou Meyer. Ou les deux. Je suis désolé, Reggie, mais je crois que c'est ce qui s'est passé. Et les corps ont été emportés dans une avalanche, ou sont tombés dans un endroit inaccessible.
Je suis d'accord,
dit Reggie.
C'est conforme à ce que Camille Chiring a vu l'année dernière du camp 3, avec les jumelles des Allemands. Il a cru distinguer trois silhouettes sur l'arête nord-est. Et puis soudain, il n'y en a eu plus qu'une seule. Et il a entendu ce qui pouvait être l'écho de coups de feu.
C'est donc là que nous chercherons, dit le diacre. Le long de l'arête. L'arête nord-est.
Où peu de gens
se sont aventurés. À part Mallory et Irvine.
Ainsi que Siegel, Percival et le jeune Meyer, si votre théorie est juste, mon ami,
dit J.C.
Exact. Je ne pense pas que Siegel commettra deux fois la même erreur. S'il nous avait tiré dessus sur l'arête nord ou durant la traversée jusqu'au camp 6, nos corps auraient pu facilement tomber par une des goulottes vers le glacier du Rongbuck ou dévaler toute la face nord jusqu'au glacier du Rongbuck Est, à 1800 mètres en dessous. Les chances de retrouver ce qu'ils cherchent après une chute pareille, même s'il s'agit d'un document, seraient infimes.
Quelle idée encourageante,
dit J.C. Ils hésiteront à tirer, à moins d'être sûrs que nous ne tomberons pas bien loin.
Poursuivit le diacre, ignorant l'interruption.
Je suggère donc qu'on garde notre avance sur ces salauds.
Reggie frotta son front pâle. Je me demandais si sa migraine était aussi douloureuse que la mienne. Au moins, elle ne toussait pas.
Que voulez-vous dire, Richard ?
Demanda-t-elle.
Nous sommes déjà venus assez loin. Nous sommes très fatigués.
Je propose qu'on continue de grimper jusqu'à la nuit,
dit le diacre, se tournant vers la bande jaune et l'arête nord-est au-dessus de nous. Le vent soulevait un panache de neige sur l'arête, ainsi que sur les deux ressauts et la pyramide sommitale, qui paraissaient proches bien qu'ils soient terriblement inaccessibles. Nous avions à présent de la neige sous les pieds, ou sous les crampons, devrais-je dire. Nous pénétrions dans un monde différent. Un monde qui ne tolérait presque aucune forme de vie.
Nous escaladerons ou contournerons ce premier ressaut. On pourrait même l'éviter en tentant une traversée de cette étroite ligne de crête. En haut de la bande jaune. Puis nous remonterons vers l'arête et attaquerons ce fichu deuxième ressaut,
poursuivit le diacre.
Nous resterons juste en dessous de la ligne de ce côté, de manière à ce que le tireur en bas ne nous voie pas en ombre chinoise. Puis nous planterons la grande tente de Reggie Dans le premier camp 7 franco-américano-britannique, sous la pyramide sommitale.
Et ça nous avancera à quoi, Richard ?
Demanda J.C.
N'est-ce pas repousser l'inévitable ? Inutile de vous rappeler que les Boches sont armés et que nous avons des pistolets de détresse. D'abord,
dit Reggie, parlant pour le diacre qui était à bout de souffle,
montez sur l'arête nord-est. Est la meilleure façon de rechercher mon cousin. Et la chose que Kurt Meyer a mis des mois à sortir d'Europe. C'est important. C'est la vraie raison de notre présence ici.
Mais les chances de la retrouver,
commençais-je.
Vous avez retrouvé George Mallory,
dit Reggie. Je soupirai.
Dans cet immense espace ouvert en bas. Et je suis presque littéralement tombé dessus.
Ça fait 10 minutes que je regarde par mes jumelles et je ne vois même pas son corps d'ici, alors que je sais où il est.
Je m'en voulais encore de ne pas avoir pris le temps d'enterrer Mallory.
Eh bien, il y a toujours une chance pour qu'on tombe sur Herr Meyer ou mon cousin. Au moins, si nous montons jusqu'à l'arête nord, nous serons à l'endroit où Camille Shearing l'a vu pour la dernière fois. Mais camper au-dessus du deuxième ressaut, Richard, si les vents se lèvent, je ne suis pas sûr que ma tente ronde puisse y résister. Et il fera très froid là-haut, si près de 8800 mètres.
Vous oubliez tous quelque chose,
croassais-je entre deux quintes de toux.
Quoi donc, Jake ?
Demanda le diacre.
Norton et vous avez comparé le deuxième ressaut à la proue d'un cuirassé ?
Parvins-je à dire avant de me remettre à tousser.
30 mètres de roche quasi verticale. Aucun homme vivant, pas même Mallory, ne serait capable de l'escalader. Pas à cette altitude impie. Et la face nord sous ce deuxième ressaut paraît trop raide pour tenter une traversée.
Vous vous trompez, Jake, dit le diacre. Il y a un homme vivant capable d'effectuer cette escalade libre du deuxième ressaut.
Dans ma tête, je tentais de passer en revue tous les grands rochassiers européens et américains, mais aucun nom ne me vint.
Vous, Jake, reprit le diacre. Vous, mon ami. Allons-y.
Il passa une fois encore les lanières de son lourd sac à dos sur ses épaules. Cette fois, il plaça son masque à oxygène sur son visage. Nous fîmes tous de même. Le diacre avait mis les 2 bouteilles pleines que nous avions cachées au camp 6 dans son sac à dos déjà surchargé. Puis il ouvrit la marche sur la face parsemée de blocs de roche en direction des goulottes très pentues qui nous mèneraient à la bande jaune, puis à d'autres goulottes et labyrinthes de rochers, avant de pouvoir atteindre l'arête nord-est battue par les vents.